Intègre Radio, le magazine féminin nouvelle génération. Hey, I'm a tick carrot, hanging up daddy, or you'll be alone in a quake. Hang up the tick habit, hanging up daddy, or you'll never get another fix. I'm telling you.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Marine, bienvenue dans Intègre Radio, l'émission féminine nouvelle génération. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité rennaise au féminin. Et je vous rappelle que le numéro 24 de YEG est disponible sur notre site. Vous pourrez y découvrir un dossier consacré à la situation des femmes en Europe et à la veille des élections européennes. On rappelle, le 25 mai, c'est presque demain. Il est important de s'y intéresser. En tout cas, on vous y invite. Pour cela, une bonne adresse, yegmag.fr. À mes côtés, pour parler de ce qu'il se passe à Rennes, Justine Gourlet, journaliste pour YEG. Bonjour Justine.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien, merci.
Bon, tu vas nous parler de la nouvelle exposition présentée au Champ Libre. Il s'agit de Soyez les bienvenus. Tu nous fais la visite dans un instant. Avec nous également Isabelle Pinault, coordinatrice et salariée de l'association Question d'égalité, et Rosanne Moreau, formatrice bénévole pour Question d'égalité également. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci en tout cas d'être avec nous. On revient sur les actions et événements que vous menez à organiser à l'année dans le 10 minutes avec, puisque sans plus attendre, on vous détaille le sommaire de cette émission. Cette semaine, on revient sur le débat organisé dans le cadre du forum Libé sur le féminisme en 2030. On parle justement de féminisme et d'égalité des sexes dans le 10 minutes avec Isabelle Pinault et Rosanne Moreau de l'association Question d'égalité. Et enfin, on s'intéresse à l'exposition de Fanny Bouyagi sur le parcours des migrants du Niger à l'Italie. Et on commence justement sur une histoire de parcours, de lutte et de cheminement. En effet, il y a du chemin à parcourir en matière de féminisme d'ici 2030. Vendredi dernier, le Forum Libération a invité les Rennaises et les Rennais à rêver, ou au moins à imaginer l'avenir du mouvement féministe. Alors on ne sait pas de quoi demain est fait, mais le quotidien national nous demande de nous projeter dans le futur et de faire un bond de 16 ans en avant. Pour en débattre, 4 expertes étaient invitées à intervenir sur le sujet. Françoise Pic, politiste, spécialiste de l'histoire du féminisme. Safia Lebdi, cofondatrice de Ni pute ni soumise, enfin on sait qu'il faut plus dire fondatrice d'un mouvement, en tout cas elle en est à l'origine, chez Becca Hachemi, pardon, ancienne diplomate afghane, et Michel Fitoussi, écrivaine. Aucune ne prendra le risque de se prononcer avec certitude sur ce que l'avenir réserve aux droits des femmes. Pas étonnant vu la situation en France, rappelons que les mouvements dits pro-life continuent de se réunir, entre autres, mais aussi dans les autres pays européens. Donc ce sont des hypothèses qu'elles vont formuler pendant plus d'une heure et vont confronter et compléter leurs utopies. Pour Françoise Pic, pas facile de prédire l'avenir, puisque, dit-elle, on ne connaît ni le contexte politique ni le contexte social qu'il y aura en 2030. Toutefois, pas de doute pour elle, pour dire que les mouvements réactionnaires continueront de sévir, dès lors qu'un mouvement féministe sera insufflé, que ce soit par les femmes ou par les hommes, puisque l'idéal est d'unir les forces au nom de l'égalité des sexes. Michel Fitoussi partage également ce point de vue et formule ce qui, pour elle, serait la meilleure hypothèse, celle de l'égalité qui primerait, celle qui verrait les hommes prendre le congé paternité, s'investir dans les tâches domestiques, celle qui verrait les écarts de salaire se réduire, le sexisme être éradiqué, ou encore celle qui verrait les femmes crever les plafonds de verre et les stéréotypes se déconstruire à travers l'éducation à l'égalité dans les écoles et les familles, la pire étant de voir les femmes empêchées de travailler et interdites de disposer de leur propre corps. Shekeba Hachemi échange autour de 2 idéaux. L'un concerne l'avenir des femmes afghanes, qu'elle aimerait voir optimiste. Dans le pays où il fait le moins bon vivre pour les femmes, l'éducation des petites filles est primordiale. C'est aussi important qu'un programme alimentaire. C'est ce qu'elle a expliqué lors de la table ronde. Et l'autre concerne la France, pour laquelle elle souhaite que les femmes aient le choix de faire un enfant, que ce ne soit pas un frein à l'emploi et que ce ne soit pas non plus un risque à prendre. Elle conclura malheureusement sur un commentaire pessimiste. On en est encore loin. Quant à l'activiste de Ni pute ni soumise, Safia Lebdi, le nouveau féminisme nous viendra des pays arabes et des pays de l'Est qui vivent actuellement l'émulsion vécue par les Françaises dans les années 60. Mais c'est aussi dans la création d'un parti politique féministe que se trouverait la solution pour pouvoir intégrer l'égalité femmes-hommes dans la société. Elle nous confiera après la conférence que selon elle, le rejet actuel du féminisme est dû aux anciennes féministes qui ne correspondent plus à l'image de la femme d'aujourd'hui. Elle avoue ironiquement, je cite, « Mieux vaut être Zaya et gagner de l'argent avec son corps. Pour les jeunes femmes, Zaya représente la réussite et la liberté. C'est pour cela que les femmes ont fonctionné. Elles sont décomplexées et utilisent le corps comme une arme de combat. » L'interview de Safia Lebdi et le compte-rendu du débat sont à lire sur yegmag.fr. On parle dans un instant des actions de l'association rennaise Question d'égalité, tout de suite après la chanson de Jeanne Chéral, Mon corps est une cage. Restez avec nous sur Yeg Radio.
Mon corps est une cage qui m'empêche de danser avec l'homme que j'aime, et moi seule ai la clé. Mon corps est une cage qui m'empêche de danser avec l'homme que j'aime, et moi seule ai la clé de bouger le courage. C'est un jeu où j'aime faire semblant d'oublier. Mon corps est une cage qui m'empêche de danser avec l'homme que j'aime, et moi seule ai la clé. Tu es ce mélange sans gêne dans ma tête brûlée. J'aurai toujours cet âge sans pouvoir le nommer, âge de la peine prête à se réveiller. Mon corps est fabriqué, il a dit amen sans jamais pardonner. Je suis toujours à l'âge où je m'entends crier, je résonne même quand ma bouche est fermée. Mon corps est une cage qui m'empêche de danser avec l'homme que j'aime, et moi seule.
hommage Jeanne Chéral, une artiste qui se produira ce soir et demain soir à 22h30 à l'air libre à Saint-Jacques-de-la-Lande dans le cadre du festival Mythos. Et vous retrouverez cette semaine l'interview de Jeanne Chéral réalisée par toi, Justine, justement. Ce sera sur yegmag.fr, évidemment. On parlait de l'avenir du féminisme en début d'émission. Une belle transition pour parler avec celles qui font le féminisme d'aujourd'hui à Rennes. Isabelle Pinault, coordinatrice de l'association Questions d'égalité, et Rosanne Moreau, formatrice bénévole pour Questions d'égalité, sont avec nous. Alors, l'association a été créée en 2010 pour la diffusion et le partage des connaissances, des analyses féministes, universitaires et activistes au grand public. Isabelle Pinault, rapidement, racontez-nous comment et par quelle volonté est née cette association.
Alors, on constatait qu'il y avait un développement des recherches sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde universitaire. Et puis, on constatait aussi que le milieu militant féministe était très informé de ces questions-là. Mais au-delà de ce milieu, il y avait peu de ponts entre le milieu militant et le grand public, et le milieu universitaire et le grand public. Et en fait, on voulait essayer de créer ce pont.
D'accord, donc c'est à ce titre justement que Questions d'égalité organise régulièrement des conférences. On peut citer quelques thèmes déjà traités comme le sexisme dans la chanson française, les chiffres des violences faites aux femmes ou encore le traitement du genre dans la littérature jeunesse. Alors les intervenantes sont souvent extérieures à Rennes. Sylvie Cromer par exemple vient de Lille, Elsa Arvanitis et Sophie Collard qui viennent de Toulouse pour la prochaine conférence en mai. Est-ce que c'est volontaire de faire venir justement des femmes de l'extérieur ou est-ce que ça souligne un petit peu un manque d'expertes, on va dire, sur le territoire rennais et breton?
On peut dire en général qu'en France, il y a un manque de recherche sur les inégalités hommes-femmes comparé à d'autres pays comme les États-Unis, les pays anglo-saxons. On est très en retard sur la recherche sur le genre, en fait. Donc, on va trouver les spécialistes partout sur le territoire français, en fait, parce que je pense que en Bretagne comme ailleurs, comme ailleurs en France, il y a un retard sur la recherche sur le genre.
Sur le genre, d'accord. Et justement, on en a beaucoup parlé du genre récemment dans les médias. On a dit aussi donc, que la prochaine conférence se tiendrait en mai, le jeudi 15 mai précisément. Ce sera au centre social Carrefour 18 à Rennes. Et elle aura pour sujet mettre en place l'égalité filles-garçons dès la petite enfance. Pourquoi? Comment? Alors c'est l'occasion de traiter un sujet, on l'a dit, qui est particulièrement d'actualité et qui est sensible. Quelle est l'importance d'une éducation à l'égalité des sexes dès la petite enfance?
La première chose déjà, c'est que les inégalités se reproduisent de plus en plus tôt et du coup les stéréotypes en fait ils affectent de plus en plus précocement les enfants et on se rend compte que les 0-3 ans ils commencent eux-mêmes en fait à comprendre qu'ils vont avoir un rôle de sexe à jouer.
D'accord. Et est-ce que, parce qu'on s'est beaucoup posé cette question, est-ce que c'est le rôle de l'école de les former à l'égalité ou en tout cas à les sensibiliser aux inégalités?
Alors en fait, on s'aperçoit que tous les espaces où on est en interaction avec des personnes, ses pairs, sont des espaces de socialisation.
Ouais.
Donc en fait, l'école, la famille, la crèche sont des espaces de socialisation pour les enfants et on socialise différemment les filles et les garçons. Donc en fait, nous on considère qu'il faut agir partout, c'est-à-dire à l'école, dans la crèche, dans la famille, dans le haut centre aéré, etc., etc., dans toutes ces instances de socialisation, en fait.
D'accord. Quand on parle justement des crèches ou des écoles qui éduquent différemment, on sait qu'à Paris, ou en tout cas en banlieue parisienne, ça existe déjà, justement, des écoles qui essayent d'être vraiment égalitaires sur l'éducation. Est-ce qu'on pourrait voir ça arriver à Rennes?
Mais tout à fait. En fait, ce serait même vraiment extra. Et c'est pour ça qu'on a fait appel en fait aux deux intervenantes sociologues de Toulouse.
Oui.
C'est parce qu'elles ont à la fois un pied dans la recherche et puis en même temps elles expérimentent en fait, appelées par la mairie de Toulouse, de la formation des personnels de crèche pour que ces crèches-là en fait aient un projet non sexiste.
D'accord.
Et donc effectivement en Bretagne il n'y a pas de projet de ce type pour le moment en fait. Il y en a un à Saint-Ouen.
Oui, voilà, c'est à celui-là que je pensais.
Ouais, il y en a à Toulouse, qui sont en route, en fait, en cours, où elles font des observations, puis ensuite elles forment les personnels des crèches.
Ouais.
Et en Bretagne, pour le moment, il n'y en a pas. Donc on a fait appel à l'extérieur parce qu'elles sont spécialistes de ces questions-là, en fait.
D'accord. Est-ce qu'on sait, justement, s'il y a des professionnels de la petite enfance qui se refuseraient justement à pratiquer cette éducation un petit peu comme la clause de conscience des gynécos qui peuvent refuser l'avortement? Est-ce qu'il pourrait y avoir des professionnels de la petite enfance qui refusent d'appliquer ces méthodes?
À mon avis, un des enjeux forts pour nous, donc là, à question d'égalité, on met des formations ponctuelles en place auxquelles peuvent participer des professionnels petite enfance volontairement. L'idée à long terme, en fait, ce serait que ces questions liées à la socialisation différenciée dont parlait Isabelle tout à l'heure soient traitées au cours de leur formation en CAP petite enfance, en école, en formation de puériculture, etc. En fait, et que ça fasse partie vraiment de leur formation de base, en fait, avant d'exercer le métier, et qu'on s'y forme aussi, en fait, tout au long de l'exercice des métiers, en fait, qu'il y ait des réunions, etc., sur ces thématiques spécifiques.
Un petit peu comme ce qui est proposé, justement, dans les écoles de journalisme, d'avoir un module sur l'égalité femmes-hommes pour que les médias arrêtent enfin de véhiculer les clichés sexistes. Alors, justement, on parlait des formations proposées par Question d'égalité. Alors, en quoi est-ce qu'elles consistent, ces formations? À qui elles s'adressent?
Alors, on a différents types de formations. On a des formations qu'on peut dire des formations de base, qui durent une journée et qui sont accessibles à toutes et tous. En fait, elle s'intitule « Mettre en place l'égalité ». Elle s'intitule « Inégalité femmes-hommes ». D'où ça vient? Pourquoi ça continue? Donc voilà, on en a mené deux déjà, qui étaient complètes. On voit bien qu'il y a vraiment un grand besoin, en fait, sur ces formations-là. Et puis, ensuite, en fait, on mène des formations, on propose des formations de deux jours, voire de trois jours, où là, on passe un peu une étape supplémentaire. On essaye d'être dans une logique de transformation sociale. Et du coup, la plupart du temps, en fait, elle s'adresse à des professionnels d'un secteur. Donc, la prochaine, c'est sur la petite enfance. Mais en septembre, on en anime une autre pour les professionnels de l'éducation populaire, etc. En janvier 2015, une pour les personnes qui travaillent dans le travail social, les éducateurs. Éducatrice de jeunes spécialisée, assistante sociale, etc. Donc, on fait deux types de formations. Une qui vise un premier niveau de conscientisation, en fait, où on va prendre conscience de l'état des inégalités, de leur histoire, comment elles se construisent, comment on peut les déconstruire, etc. Et puis, d'autres formations un petit peu plus longues, même si voilà, ça reste quand même court, deux jours ou trois jours, où les gens peuvent se mettre un peu en chantier sur leur lieu de travail ou dans leur pratique militante.
D'accord. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Isabelle Pinault. Donc, sans détailler chacune de vos actions, il y en a une qui est particulièrement ludique et profondément importante et impactante. C'est celle de la conférence gesticulée sur le clitoris, un petit nom qui en dit long. Quel est le principe de la conférence gesticulée et pourquoi le thème du clitoris ?
Alors, on a choisi effectivement de construire une conférence gesticulée pour diversifier nos formes de diffusion des connaissances. Oui. Parce qu'au départ, on organisait surtout des conférences, débats classiques où on fait venir une spécialiste, une universitaire ou une professionnelle qui va parler et puis ensuite on pourra lui poser des questions. Et ça touche un public qui est déjà assez intéressé et particulier. Et donc, la conférence gesticulée, c'est effectivement plus ludique et ça touche un public beaucoup plus large. Donc, en quoi ça consiste? En fait, c'est un mélange entre... C'est ni du spectacle, ni de la conférence. Et ça a été inventé un peu par la coopérative d'éducation populaire Le Pavé. Et ils définissent la conférence gesticulée ainsi. C'est un mélange de savoir chaud et de savoir froid. Donc, le savoir chaud, c'est le savoir né de l'expérience. Donc, on expose des témoignages, des expériences vécues, nos expériences vécues.
D'accord.
Et puis, le savoir froid, c'est le savoir des livres, l'analyse, la théorie, l'analyse sociologique, historique, etc. Donc, ce mélange de savoir chaud et savoir froid, ça ne fait pas un savoir tiède, mais ça fait un orage. Un orage, quelque chose qui provoque de l'émotion et qui donne envie d'agir, qui provoque de l'émotion, de la colère, parce que c'est sur des sujets politiques, sur des sujets où on veut transformer la société. Et l'idée, c'est donner aux gens l'envie d'agir.
D'accord. Vous avez des dates prochainement? Quand est-ce qu'à Rennes, on pourra la revoir?
Alors, effectivement, on la joue beaucoup, mais on l'a jouée à Rennes 3 fois depuis sa création. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles dates à Rennes. On va certainement la jouer en Bretagne au 2e semestre. On n'a pas encore les dates.
D'accord.
Donc peut-être à Saint-Brieuc et à Quimper. Sinon, la prochaine qu'on joue, c'est à Strasbourg. Et puis, on a des dates à Pau ou Chambéry. Donc, on va un peu loin pour la jouer.
D'accord. En tout cas, pour les Rennais, on pourra découvrir le principe de conférence gesticulée. Alors, ce ne sera pas exactement le même que celui que propose Question d'égalité. Mais dans le cadre du festival Dehors, la semaine prochaine, à la salle Guy Ropart, c'est un vendredi prochain, on pourra assister à une conférence gesticulée justement sur le féminisme qui sera ensuite suivie le samedi matin d'un atelier post-conférence justement dans les locaux de questions d'égalité. Donc vous organisez pas mais vous accueillez.
Voilà, tout à fait. On n'animera pas l'atelier mais on donne accès à une salle pour que Karine Biraud qui joue cette conférence anime ensuite l'atelier. Donc Karine qui est salariée du planning familial de Nantes et qui a créé une conférence gesticulée sur son parcours en fait d'engagement féministe dans le planning.
D'accord, alors on n'a malheureusement pas le temps de développer davantage les actions menées et les événements organisés, mais votre nouveau site permet de suivre toute l'actualité de l'association www.questionsdegalite.org. Merci beaucoup Isabelle et Rosane.
Merci.
On continue de parler de l'actualité rennaise au féminin après une pause musicale en compagnie de Christine and the Queens. Bonne écoute sur YAG Radio. and the Queens avec Loving Cup, une chanson que vous pourrez certainement entendre sous le Magic Mirror installé cette semaine dans le parc du Tabor à l'occasion du festival Mythos. Ce sera vendredi 18 avril à 18h, facile à retenir. En attendant, on vous propose un voyage au cœur de l'exposition Soyez les bienvenus, signé Fanny Bouyagui. Justine, tu as suivi la visite en présence de l'artiste de l'exposition que l'on peut découvrir au Champ Libre jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qui a motivé l'artiste à s'intéresser au sujet de la migration ?
Alors, les motivations de l'artiste, c'était avant tout de montrer la différence au niveau de la migration, la différence entre l'époque d'il y a 50 ans à celle d'aujourd'hui. Et elle a eu aussi envie de donner la parole aux sans-papiers.
D'accord.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le père de l'artiste donc est né à Dakar, au Sénégal, et est arrivé en France en 1957. Et donc, elle raconte qu'à cette époque-là, son père est arrivé sur une terre très accueillante. Il n'a pas du tout eu de problème à obtenir ses papiers. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a trouvé du travail très vite et il a eu une vie vraiment heureuse. Donc, elle me raconte ça avec beaucoup d'émotion. C'est vrai qu'on le ressent bien, son côté nostalgique à cette époque. Et puis, donc, quand on voit aujourd'hui... voilà la différence de situation des migrants, on voit la précarité, la misère, et c'est vrai que du coup elle a eu envie vraiment de montrer le paradoxe qu'il y avait entre les deux époques.
D'accord, et alors la mise en scène elle est très particulière, l'exposition prend forme dans la salle Anita Conti, un petit peu comme un labyrinthe. Alors qu'est-ce qu'on y découvre à l'intérieur sans dévoiler l'intégralité du contenu bien évidemment?
Alors déjà il y a beaucoup de photos, beaucoup d'interviews, vidéos. En fait, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on commence, c'est un petit peu comme un parcours. Donc l'exposition commence avec son point de vue personnel, avec le côté positif justement, des photos en noir et blanc d'il y a 50 ans, où on voit son père et sa femme. Après, on évolue petit à petit vers, malheureusement, le côté un peu plus fataliste de notre époque, où l'artiste a regroupé beaucoup de photos, beaucoup de des poubelles. À un moment, on voit tout un amas de poubelles.
Oui.
Il y a aussi un mur
avec le portrait de Silvio Berlusconi.
Voilà, exactement, juste au-dessus. Exactement. Et on a aussi donc tout un mur recouvert de billets entièrement, et puis beaucoup de vidéos avec des interviews des migrants qui sont justement à mi-parcours par exemple, et on voit vraiment leur désillusion face à leur situation. On voit bien qu'ils sont très dans une situation un petit peu de détresse.
Ouais, c'est un vrai travail artistique qu'elle a mis en place. Enfin, les expos photos, c'est aussi très artistique, mais il y a vraiment une volonté d'agencer l'exposition.
Voilà, et c'est vrai que c'est très novateur comme façon de faire. Ça change des expositions photos que l'on peut voir habituellement, tout en étant quand même très accessible au public. Donc, l'artiste ne se met pas du tout dans un... Enfin, comment dire, ce n'est pas du tout une expo vraiment contemporaine où on aurait du mal à saisir les choses. Là, c'est vraiment... c'est vraiment facile d'accès.
D'accord, c'est accessible à tous. Et alors justement, est-ce que tu peux nous parler, toi, de comment tu as vécu cette visite ?
Alors, beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'au début, on ressent la joie. C'est doux. Les photos sont belles. On sent qu'il y a vraiment de l'amour, etc. Et puis petit à petit, on arrive face à des situations où malheureusement on se sent impuissant face à cela, on se sent juste simple spectateur, et c'est très dur, c'est très dur. Moi j'ai ressenti beaucoup de tristesse en fait, vraiment ça m'a pris au cœur, et bon, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi, mais vraiment l'artiste a réussi à nous faire ressentir ce qu'elle voulait nous montrer. Je pense que vraiment...
D'accord, c'est un pari réussi.
Tout à fait.
Et ben merci beaucoup en tout cas Justine pour cette exposition que vous pouvez voir donc au Champ Libre jusqu'au 11 mai. Sans transition, on passe à l'agenda. Hey girl, what you doing? Hey girl, where you going? Que se passe-t-il à Rennes cette semaine? Eh bien, sans surprise, on centre cet agenda sur la programmation du Festival des Arts de la Parole Mythos, puisque pour une fois, on note que les artistes féminines sont plus nombreuses que les éditions précédentes, une évolution positive donc. On pourra donc découvrir dès ce soir Jeanne Chéral à l'air libre à 22h30, et puis il faudra maîtriser le don d'ubiquité, puisqu'au même moment, sous le cabaret botanique dans le parc du Tabor, se produira Plaza Francia, le projet assez détonnant donc, qui réunit Catherine Ringer et le Gotham Project. Signalons aussi la carte blanche à Rufus qui ose ce soir à 20h au Carré Sévigné parler des femmes fontaines avec humour évidemment. Mythos, c'est donc jusqu'à lundi prochain et accueille les professionnels de la parole, du conte contemporain et de la chanson française avec entre autres Claude Pelgag, Moriarty, Christine and the Queens, Émilie Simon, Carmen Maria Vega ou encore Sonia Bester et sa troupe déjantée. Tout le programme est à retrouver sur le site de Mythos et on ne manquera pas de suivre les spectacles féminins sur yegmag.fr. C'est donc, vous l'avez compris, une semaine bien chargée hein, qui n'occultera pas le reste de l'actualité rennaise au féminin. Ce sera donc à lire sur yegmag.fr puisque pour aujourd'hui c'est fini. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup Isabelle Pinault et Rosanne Moreau d'être venues nous parler de l'association rennaise Question d'égalité.
Merci.
Merci.
À bientôt. Je remercie toute l'équipe de YEG Radio, Julien qui réalise cette émission, Justine Gourlet, journaliste pour YEG. Tout de suite, votre émission sur écoute, spécial Mythos évidemment. Merci à toutes et à tous. On se retrouve dans YEG Radio la semaine prochaine, même jour, même heure. Musique.